Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Alain Kleinman pour la parution du petit livre des paradoxes et des illusions aux éditions Hermann et l'historienne de l'art Brigitte Haus pour sa monographie Le peintre Alain Kleinman, déstructuration des formes, reconstruction de l'identité. Bonsoir Alain et Brigitte.
Bonsoir Sylvie.
C'est un plaisir, Alain, de vous recevoir une nouvelle fois sur notre antenne. Vous êtes un habitué des lieux, on peut le dire comme ça. Et pour vous, Brigitte, c'est une première. Alors, on va commencer par parler de votre actualité. C'est donc la parution de la monographie qui deviendra la référence pour plonger dans la vie et l'œuvre de l'artiste Alain Kleinman. Son titre, on le redonne, « Le peintre Alain Kleinman, déstructuration des formes, reconstruction de l'identité ». Quelques mots de présentation pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes psychologue, docteur en histoire de l'art contemporain, spécialiste de l'art juif du XXe siècle et journaliste culturel. Vos différentes facettes s'associent pour éclairer d'un jour nouveau l'œuvre d'Alain Kleinman. Cela donne un livre de presque 500 pages où rien n'a été oublié de la biographie, la formation, le parcours, les rencontres marquantes et bien sûr l'évolution de l'œuvre contemporaine majeure d'Alain Kleinman. Dès vos études en histoire de l'art pour votre DEA et votre doctorat, vous avez choisi de vous rapprocher de l'artiste pour analyser son travail. Et évidemment, la première question qui s'impose, pourquoi cet intérêt qui a traversé les décennies pour l'artiste Alain Kleinman et son œuvre ?
Je suis convaincue, justement, pour l'avoir bien étudié, qu'il fait partie intégrante de l'histoire de l'art. Il rentre dans l'histoire de l'art, il révèle l'état d'esprit de sa génération, ce qui explique son succès dans le traumatisme transgénérationnel de la Shoah, tous ces manques, toutes ces lacunes sur notre passé, nos origines, il révèle tout ça très bien, sans vouloir le faire. Enfin, lui n'a jamais voulu parler de la Shoah. C'est quelque chose qu'il rejette complètement. Le terme n'entre pas dans son vocabulaire, pour ainsi dire, sauf depuis récemment. Lui se situe dans la mémoire. Donc, voilà, la mémoire des ancêtres, des parents, du peuple, etc. C'est ça son objectif. Ce faisant, tout le monde il retrouve la Shoah et il a bien fini par l'admettre. Et en ce sens, En tant que révélateur de notre époque, il rentre dans l'histoire de l'art et c'est pour ça que j'ai voulu réaliser cette monographie.
Alors il y a des choses inédites que vous apportez dans la réflexion ou le regard de l'œuvre d'Alain Kleinman. Vous l'inscrivez notamment dans le renouveau de la culture juive après la Shoah. Est-ce que ça signifie qu'il aurait des liens avec d'autres artistes contemporains ? Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait créer un mouvement avec Alain Kleinman et d'autres artistes comme l'École de Paris en son temps ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors déjà, l'exemple École de Paris est bon et mauvais à la fois, parce que le terme d'école suppose qu'il y ait un dogme, qu'on suive une doctrine. Or, dans l'École de Paris, les artistes suivaient chacun leur propre chemin, exactement ce que font les artistes de notre génération, même si parfois les choses se recoupent. Il reste quand même unique. Chacun d'entre eux est unique. Maintenant, effectivement, il faut reconnaître que après la Shoah, il n'est pas le seul à se pencher sur ce qu'a pu être la Shoah, ce qu'a pu être la vie avant. Mais il le fait à sa façon. Voilà, chacun à sa manière. Moi, j'ai voulu me pencher sur Alain Kleinman parce que justement, il est révélateur de cette reconstruction de la vie culturelle juive, de la vie juive déjà, et de la vie culturelle juive notamment après la Shoah. Et en ce sens, à chaque fois qu'il y a une nouvelle institution ou qu'une institution déjà existante fait un événement comme l'inauguration de nouveaux locaux, un anniversaire ou que sais-je encore, enfin bon bref, c'est toujours lui qui est invité, c'est pas les autres, lui peut être invité avec d'autres, mais il y a toujours lui, lui avec les d'autres ou sans les autres, mais tout, il est toujours là. Ce qui fait que quand on regarde son œuvre et ses contributions, eh bien, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent dans la vie culturelle juive à Paris, notamment en France, plus généralement.
Alors j'ai envie de profiter de la présence d'Alain pour réagir à ce sujet. C'est une idée que j'ai beaucoup travaillée, cette idée de renaissance de la culture juive après la Shoah. Un mouvement s'est créé qu'on a appelé l'École française de pensée juive, qui a été animée par des penseurs éminents dont on connaît les noms et qu'on admire, Emmanuel Levinas, André Neher, Léon Ashkenazi dit Manitou, Eliane Amadolevi-Valency et tant d'autres. Et il faut rappeler aussi que dans votre livre, il n'y a pas uniquement un commentaire de la vie et de l'œuvre d'Alain Kleinman, il y a aussi des références historiques, et notamment à cette période. Et cette école française de pensée juive était constituée de philosophes, de mathématiciens, mais aussi d'artistes. Est-ce que, Alain, vous avez l'impression, est-ce que ça vous parle de vous dire que vous pourriez être associé à cette expérience ?
À vrai dire... C'est pas pour généraliser le propos, mais j'imagine qu'à chaque génération, on est dans le bain culturel ambiant. Il y a des périodes plus ou moins riches. Je me souviens à Paris, par exemple, des années 70, où il y avait un foisonnement de penseurs qui étaient des référents mondiaux. C'était vrai en psychanalyse avec Lacan, en sémiologie avec Kristeva, le groupe tel quel, en mathématiques avec le groupe Bourbaki, en peinture, il s'y passait mille choses formidables. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui flanche un petit peu de ce point de vue-là, mais enfin, j'imagine qu'à chaque génération... Toute personne ayant une appétence culturelle, disons, se sent en miroir avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas pour noyer le propos, mais évidemment j'ai eu le bonheur de grandir entouré de figures qui m'impressionnaient, qui me conditionnaient, qui me reflétaient, juives et non juives à vrai dire. Globalement, il est naturel qu'après la Shoah, il y a eu besoin, de toute manière, de ce que Brigitte et toi et vous appelez un renouveau juif. Évidemment, il fallait tout reconstruire. Donc, il y a quelque chose de strictement logique, si on peut dire, à ce que ça soit apparu. Voilà. Donc, j'ai traversé tout ça comme chacun d'entre nous.
Alors Brigitte, vous soulignez aussi dans l'œuvre d'Alain Kleinman ce lien entre finalement un ressenti particulier et le fait de toucher l'universel, qui est aussi le point commun avec cette école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce message non perçu en tout cas par l'artiste et que vous avez vu vous dans l'écriture de cette monographie ?
Non, je comprends pas bien cette question. Effectivement, il y a quelque chose d'universel chez ce peintre. Comme il vient de le dire, il a été influencé par des personnalités juives et non juives. De même, dans son public, il y a autant de juifs que de non juifs. Et bizarrement, il a reçu, bien qu'il ait reçu de nombreux prix et distinctions, tant par dans le domaine culturel juif que celui non juif, il en a reçu plus en dehors du monde juif, tout simplement parce qu'il y a le monde juif et il y a plus de monde, il y a plus d'activités, il y a plus, voilà. Donc il y a
cette, parce que son œuvre parle à toutes et à tous.
Voilà, chacun y perçoit ce qu'il veut, puisque lui-même n'a pas conscience, n'a pas voulu faire un travail sur la Shoah. Donc les juifs qui ont le même vécu que lui arrivent à ressentir ce non-dit qui s'appuie sur la Shoah, par contre les autres ne le vivent pas comme ça. Ils le vivent comme ça plus récemment, mais ne serait-ce que par le fait que quand il s'adresse à des journalistes, il met l'accent sur le thème de la mémoire, les journalistes non-juifs répercutent cette idée de mémoire et voilà. Donc il y a ce côté universaliste dans le sens où chacun, c'est le principe de l'art, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Donc c'est en ça que l'art est universel et très particulier. Il n'y a pas deux interprétations pareilles d'une même œuvre. Et les choses, il n'y a pas de vérité. Les choses ne s'annulent pas, c'est pas ou, c'est et à chaque fois. Et c'est démultiplié, et c'est ce qui rend l'art intéressant, justement.
Est-ce que vous pensez que le regard que vous portez vous-même sur cette œuvre vous est particulier ? Ou est-ce que vous avez voulu justement essayer de montrer des choses qui pouvaient parler à toutes et à tous? Alors je vous donne un exemple. Vous dites que en faisant revivre l'ancien monde juif anéanti au cours de la Shoah, Alain procède à un tikkun, une réparation du monde, et que son œuvre sera en quelque sorte une œuvre de résilience autant que de mémoire. Est-ce que vous pensez que c'est votre regard à vous, ou c'est un regard que tout le monde peut avoir en visualisant les réalisations d'Alain Kleinman?
C'est surtout une conclusion de cette étude. C'est que effectivement, comme Alain Kleinman se reconstruit, enfin, c'est un travail cathartique. Il travaille, il fait. Enfin, travail, c'est peut-être pas le mot le mieux choisi, mais enfin, il crée parce que il a besoin de le faire. Et pourquoi il a besoin de le faire? Parce que cette impérieuse nécessité intérieure lui est nécessaire, elle est réparatrice, elle vient combler ce manque. Il a besoin de combler cette lacune laissée par la Shoah. Donc il y a cette dimension, et quand les spectateurs regardent son travail, ils reproduisent, pour ainsi dire, cette étape, cette démarche. Ils passent pas par l'étape de la création, ils se réapproprient ce travail de création pour ressentir cette même réparation. Donc ce travail de résilience, c'est pour ça que je perçois qu'elle rebondit comme ça à différents niveaux. Les sociétés non juives voient dans cette résilience qui apparaît chez Alain quelque chose, un modèle, un moteur. Je pense à Cuba, je pense à Mussolini qui a eu pendant un temps l'idée de changer le nom de sa propre ville, de changer de nom parce que son identité changeait à la fermeture de ses mines. Donc il y a comme ça différents types de sociétés, et en ça il y a un côté universaliste.
Alors je vais me tourner une nouvelle fois vers Alain, qui signe la préface ce beau livre, et qui rappelle combien son geste de peindre est un acte artistique sans calcul préparatoire, sans y penser en fait. C'est la couleur qui appelle la couleur, ou l'acte qui appelle l'acte. Et sa préface se termine par une comparaison de votre travail à celui d'une archéologue qui, à partir d'un objet trouvé, reconstitue l'essence même de son histoire, sans même que son concepteur n'y ait pensé. Est-ce que vous pensez à tout ça? Enfin, une nouvelle fois, vous allez dire que non. Mais alors, ou plutôt, qu'est-ce que le fait de lire cet ouvrage de Brigitte vous a inspiré?
Alors évidemment, je ne pense pas à tout ça. Peut-être que si j'y pensais, je serais absolument incapable de peindre. Le livre de Brigitte m'a impressionné, si je peux dire, parce qu'elle me semble en savoir plus sur ma vie et mes activités que je ne le sais moi-même. Elle a eu l'extraordinaire patience de fouiller dans les archives pendant des années, de concentrer tout ça. Moi évidemment, je vis ma vie comme tout le monde, telle qu'elle se présente, au jour le jour, activité après activité, et je suis presque étonné de voir que ça fait 500 pages sous l'écriture de Brigitte. Voilà, donc vous avez raison. peindre, c'est d'abord peindre. C'est-à-dire que je dis dans cette préface que pour un peintre, un bleu, c'est un bleu. C'est ni du ciel, ni de la mer. Un rouge, c'est un rouge. C'est ni du sang, ni la muleta d'un torero. Du jaune, c'est du jaune. C'est ni un soleil, ni un citron. C'est-à-dire que la... comment dire, la mise en slogan d'une couleur dans le langage n'appartient pas au monde du peintre.
C'est que vous ne verbalisez pas votre acte et vos choix de couleur, de matière.
La peinture est un langage en soi qui est un langage de matière, de forme, de couleur et pas un langage symbolique, c'est-à-dire que ces éléments-là sont les outils du peintre, comme pour un musicien, les notes, etc., sont ces outils. Maintenant, thématiquement, il peut y avoir des peintures qui soient symboliques, ou qui soient comme dans le surréalisme, à vrai dire, l'objet peint devient un objet littéraire qui a un fonctionnement comme celui-ci. Mais moi, je me sens plus dans la peinture elle-même. Donc ça me... Encore une fois, appuyer dans l'activité sur l'aspect symbolique me tente pas et me semble pas nécessairement quelque chose qui puisse m'ouvrir des portes ou des fenêtres.
Pour quelqu'un qui s'intéresse à votre travail, dont je fais partie, j'ai appris énormément de choses sur votre biographie, sur l'évolution aussi de votre carrière. Vraiment, Brigitte, votre travail systématique est très impressionnant. Hein, c'est le mot aussi qu'a souligné Alain. Il y a deux grandes parties. La monographie, donc les mots, et puis les visuels en couleur que vous appelez des figures. Est-ce que vous allez continuer à suivre l'actualité d'Alain Kleinman? Est-ce que vous allez continuer d'écrire ou de vous renseigner sur cette œuvre?
Écoutez, je fréquente Alain Kleinman très régulièrement puisque nous sommes très amis, donc je vous suis un petit peu son évolution et il n'y a pas de raison que je m'arrête maintenant que le livre est paru.
Vous n'avez pas tout dit.
Eh ben, la vie n'est pas terminée, la création n'est pas terminée. Pour les artistes, la meilleure œuvre est celle qui reste à produire, donc voilà.
Alors, si nos auditrices et nos auditeurs sont intéressés par se procurer le livre, comment font-ils ?
On peut le trouver en vente à la librairie du Mage, à celle du Mémorial, sur le site de l'artiste. Et puis, il y a toujours des moyens de pouvoir l'avoir. Quoi.
Donc, sur Internet, on tape Alain Kleinman, www,
voilà,
on trouve le site d'Alain.
Sur son site officiel, voilà. Et puis là, on peut se le procurer. Mais pour ceux qui habitent Paris, c'est peut-être plus facile d'aller à la librairie du Musée d'art et d'histoire du judaïsme ou à celle du Mémorial de la Shoah.
J'avais une dernière question, hein, c'était par rapport au sous-titre. Donc, le titre, le peintre Alain Kleinman, et le sous-titre, déstructuration des formes, reconstruction de l'identité. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce titre?
Tout simplement parce que Alain Kleinman travaille le fragment, les trous, toute cette déstructuration, l'effacement, l'enfouissement, le recouvrement, enfin tout ce qui s'efface, tout ce qui se délite pour justement révéler cette évolution de la mémoire dans le temps, les choses qu'on oublie, les choses qu'on garde en mémoire, les choses qu'on oublie partiellement, les choses qu'on déforme, mais aussi ce monde disparu, qui a laissé des traces, ne serait-ce que notre génération, qu'on peut considérer comme une trace laissée des générations précédentes qui ont eu un mode de vie et un lieu de vie totalement différent des nôtres. Donc c'est à ça que fait allusion la déstructuration des formes et la reconstruction de l'identité qui met en opposition les deux termes déstructuration reconstruction parce que à travers ce travail, Alain Kleinman se reconstruit lui-même. Comme je l'ai dit, c'est un travail cathartique, c'est un besoin psychologique, c'est un travail de résilience. Donc, il se reconstruit et en se reconstruisant, il reconstruit la culture juive, comme je l'ai signalé. Et tout le travail d'Alain Kleinman repose sur l'opposition des termes. Ce qui l'intéresse dans sa démarche, en fin de compte, c'est la notion de seuil. la ligne de démarcation, le moment où on passe d'un état à un autre, ce que Marcel Duchamp appelait l'inframince, à quel moment quelque chose est vivant et puis juste après il est mort en un millième de seconde, quelle est la différence ténue entre le rêve et la réalité pour certains, entre différentes choses, enfin, que je cite dans mon livre et que j'ai pas forcément tout en tête maintenant, mais tout son travail repose sur l'opposition des sens et toute son évolution le témoigne. Alors, dans une même œuvre, il jumelle souvent ces deux choses, ce qui fait qu'il jumelle les contradictions pour justement faire ressortir toutes ces nuances, rechercher ce moment très labile, très très ténu de la séparation, qui est très important dans le judaïsme. Hein. C'est la présence de la mezouza au seuil des maisons juives témoigne de cette importance.
Alors Brigitte, j'ai envie de vous poser une question personnelle en vous ayant lu, en vous entendant, on vous sent vraiment habité par cette œuvre, par cet artiste, vous personnellement, de travailler depuis plusieurs dizaines d'années hein, sur le peintre Alain Kleinman, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte des choses au quotidien, votre rapport à l'art, votre rapport à la culture?
Alors, moi, j'ai toujours, le début de mes études en histoire de l'art, j'ai toujours voulu m'intéresser à l'art juif, parce que j'ai toujours entendu dire, tout au long de ma vie auparavant, que l'art juif n'existait pas. Et pour moi, c'était un contresens, en tant que psychologue ou sociologue, une société sans art ne peut pas exister, c'est pas possible. Les sociétés s'appuient sur leur art et leur mythe, etc. Donc, j'ai voulu chercher de ce côté-là, et puis évidemment j'ai trouvé, et même à l'heure actuelle où les gens nient l'existence d'un art juif, pour moi c'est une incohérence totale, même quand on dit il n'y a pas d'art juif, il n'y a que des artistes juifs, les artistes juifs ils sont juifs, donc ça, c'est le judaïsme, la judéité, enfin bon, donc tout ça correspond à mes centres d'intérêt, et je m'intéresse à Alain Kleinman, mais pas que, j'ai dans mes fichiers, j'ai des dizaines et des dizaines d'artistes juifs, principalement de notre génération ou celle ou les précédentes. Les plus anciens auxquels je m'intéresse sont nés autour de la Première Guerre mondiale. Mais bien évidemment, chacun d'entre eux m'apporte quelque chose de très important. Et je suis toujours admirative devant les artistes de voir comment chacun révèle à sa façon, avec sa créativité, une problématique extrêmement complexe avec des formes et comment justement à partir d'une même problématique chacun a sa façon propre, et je pense que les prochains livres que j'écrirai révéleront justement cette disparité des formes d'un artiste à un autre autour d'un même thème. C'est fascinant.
Merci Brigitte, vous restez avec nous. Nous sommes toujours
Merci Sandrine.
Avec plaisir. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Brigitte Haus et Alain Kleinman. Il y a une autre actualité hein, qui nous vaut, Alain, votre présence ici aujourd'hui. C'est un petit livre des paradoxes et des illusions qui vient de paraître aux éditions Hermann, un livre qui a une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Pardon. Oui, alors c'est un livre que j'ai commencé, à vrai dire, quand j'avais une vingtaine d'années, et que je viens uniquement maintenant d'achever. Il y a un côté à la fois visuel, c'est-à-dire des images ambiguës, ou telles que on puisse lire quelque chose d'un côté, on retourne la page, on y lit autre chose, ou bien des paradoxes mathématiques dans les espaces dessinés. Ça, c'est une partie, et l'autre partie est textuelle et quasiment repose sur des principes de logique mathématique. J'avais fait à l'époque assez longtemps des mathématiques, et puis un DEA de sémiologie aussi sur la différence entre les langages logiques formalisés et les langages naturel. Et d'une certaine manière, tout ça s'est réorganisé avec des années et des années. Et le... ça a donné ce petit livre où j'essaie d'amener le lecteur sans arrêt à douter de tout. C'est-à-dire ce qu'il voit n'est pas ce qu'il voit, la manière dont il pense n'est pas la vérité, ce qu'il croit entendre est le contraire de ce qui est dit. Et c'est une sorte de carrefour entre les choses visuelles, logiques, littéraires... Voilà, je pensais à mes enfants auxquels j'ai toujours essayé d'apprendre à se méfier des bien-entendus, des présupposés, de ce que tout le monde affirme comme étant une certitude définitive. Là, il est beaucoup plus intéressant d'admettre une sorte de mobilité dans la pensée, d'interrogation, de remise en question permanente. Et voilà, j'essayais de, à vrai dire, c'est un livre que j'espère être ludique, c'est-à-dire on s'y promène avec par jeu et j'espère avec plaisir. Mais l'impression doit être finalement d'être face à une cascade d'interrogations plutôt que d'y trouver à la moindre page une sorte de certitude définitive.
Alors moi c'est un livre, je pense qu'il va surprendre parce que d'après ce que vient de dire Brigitte et que vous avez complété, on vous imagine comme un peintre de la mémoire et ce petit livre est très sympathique à lire, à partager, à poser des énigmes, à triturer dans tous les sens, à bousculer, à se méfier des idées reçues. Et vous répondez à une question que j'allais vous poser, mais je vous la pose quand même, je voulais vous lire. Dans l'avant-propos, vous écrivez « Dans l'inquiétude de ma jeunesse, je cherchais alors frénétiquement de tous côtés comment répondre aux diverses préoccupations et interrogations qui m'envahissaient. Je faisais en même temps une maîtrise de mathématiques, un DEA de sémiologie, des études de philosophie, de judaïsme. Je peignais, je sculptais, je dessinais des ambiguïtés visuelles qui servaient souvent d'illustration à la presse, le monde diplomatique, le monde dimanche, art tel, etc. Et j'étais et suis toujours fascinée par les paradoxes, illusions, failles de logique et instabilité sémantique dans les champs textuels comme visuels. Il m'a fallu 50 ans pour compléter ce travail de jeunesse. Et la question que je voulais poser, mais vous y avez répondu en partie, peut-être que vous allez en parler un peu plus longuement, est-ce que l'illusion est au croisement de la représentation et de la logique mathématique? Est-ce que ce travail que vous avez fait il y a un certain nombre d'années a été aussi ensuite représenté dans votre autres œuvres de la mémoire qu'on connaît?
Je crois qu'il y a un hiatus dans mon travail, c'est-à-dire que quand j'avais 18-20 ans, effectivement je travaillais pour la presse, pour le monde diplomatique, et ça m'amusait beaucoup de faire en sorte que qu'on prenne la page du Monde, et si on retourne le journal, on lit autre chose dans le dessin, ou il y avait des jeux comme ça. Je me souviens que Colga Catenal, que vous connaissez bien,
j'allais vous en parler,
voilà, pardon je précède,
c'est elle qui vous a familiarisé avec ces problématiques?
Non. Ça existait, mais comme elle connaissait bien le psychanalyste Jacques Lacan, elle voulait que je le rencontre parce qu'elle voyait entre ses travaux sur les jeux de mots, en gros. Mais le jeu de mots, ça veut dire lire au moins deux choses en même temps, entendre au moins deux choses en même temps, si ce n'est plus. Et donc, elle me l'a présenté. Quand il a vu mon travail, il m'a pris dans ses bras en disant « Monsieur, de manière emphatique, nous faisons le même travail ». Effectivement, c'était cette idée de rupture des champs sémantiques, si on peut dire, c'est-à-dire de... lui, c'était des jeux de mots comme le nom du père, le nom du père. Moi, c'était plus visuel. Et à un moment donné, avec toutes ces années, tout ça s'est rejoint.
Brigitte Haus cite dans son livre un jeu de mots, je crois que c'est vous qui l'avez fait, à l'un, à l'autre.
Oui, absolument.
Et on pense à ça aussi en voyant ce petit ouvrage. Alors, on parle dans ce livre beaucoup du golem, du Maharal de Prague, de la tradition juive. Pourquoi cet intérêt pour cette figure inquiétante de la tradition?
Alors, on vient de parler de Lia Catenal. Ouais. À vrai dire, c'est elle qui m'avait initié, si on peut dire, à la... à l'existence du golem et à ce qui en découlait, aussi bien dans la théorie que dans des romans plus populaires comme celui de Mehring, etc. Et je cherchais, avec tous ces éléments que j'avais accumulés depuis des années, comment essayer d'imaginer un ciment ou quelque chose qui permette de coiffer, d'amalgamer des éléments qui étaient épars. Et bizarrement, c'est cette figure du golem qui m'a semblé un chemin possible de réunification. Donc je me sers et de cette figure et de manière imaginaire de celle du Maharal de Prague, que mes maîtres me pardonnent, j'ai pris des libertés de ce point de vue-là. Alors, évidemment, là-dedans, il y a cette importance du Aleph qui transforme le Met en Emet, c'est-à-dire vérité en mort, ce qui permet à cette statue de prendre ou non vie, et tout ça, voilà, ça se joue sur le fil du rasoir, sur une lettre, sur des ambiguïtés constantes, j'ai fabriqué avec des faux élèves du Maharal toutes sortes de dialogues. Il fallait que je trouve une manière de fabriquer pour ces ambiguïtés de type en train de dialoguer, de s'interroger, de se renvoyer la balle, et c'est une sorte de ciment qui a permis que le livre soit un peu lisible.
Alors l'heure tourne, hein. J'aurais pu vous poser beaucoup de questions, mais je dois dire vraiment c'est un petit livre amusant, sympathique. Je pense que c'est le cadeau de Hanouka ou des fêtes de fin d'année idéales à offrir, à s'offrir. C'est une page d'illustration, de représentation à voir d'un sens ou d'un autre, et puis une explication à côté assez courte. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, merci beaucoup, Sandrine.
Alors j'ai quand même une dernière question, un classique mais néanmoins difficile dans cette émission. C'est d'abord pour vous, Brigitte, si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, Le peintre Alain Kleinman, Déstructuration des formes, Reconstruction de l'identité, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors là, très franchement, je ne me sens pas capable de répondre à ça. Simplement, l'intérêt que l'on peut porter à notre vie, à notre société, se retrouver, cette identification que l'on recherche tous, le fait de ne pas se sentir seul, comme malheureusement, on l'a tous trop senti. Chacun d'entre nous s'imagine vivre sa peine, ce manque, etc., et ne pas pouvoir en parler. Et là, il y a vraiment une espèce de structure, une espèce de lien qui fait que c'est commun à nous tous. Voilà, je pense à ça, je pourrais penser à beaucoup d'autres choses, mais tout est éparpillé, tout est dans le livre. J'aurais beaucoup de choses à dire que j'ai pas pu dire en répondant à vos questions.
Il faut lire le livre, il faut se le procurer.
Voilà, j'ai pas pu aller au bout de mes pensées en vous répondant. Comme vous dites, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est très dense. Si on s'intéresse à l'art juif contemporain, je pense qu'on peut y trouver quelque chose.
Alors Alain, je vous pose la même question. Pour qui, pourquoi ce petit livre des paradoxes et des illusions qui vient de sortir aux éditions Hermann?
Ce que je peux dire, c'est que moi je me suis beaucoup amusé à le faire. Donc j'espère que ceux qui l'auront entre les mains s'amuseront aussi. Tout en s'interrogeant, il y a quelque chose de ludique, je pense, voilà.
Merci beaucoup Brigitte et Alain pour vos actualités respectives, hein, je les rappelle, la parution de la monographie Le peintre Alain Kleinman, Déstructuration des formes, Reconstruction de l'identité, et puis pour vous Alain, Le petit livre des paradoxes et des illusions aux éditions Hermann. Bonsoir et à bientôt.
Bonsoir Sandrine, merci.
Bonsoir Sandrine et merci aussi.